Bonjour et bienvenue dans ce journal du 21h. Au sommaire de cette émission, un rapport relevant de nouveaux secrets, un artiste français bien connu sort son nouvel album pour les fêtes de fin d'année, un point sur l'emploi et un mot de politique extérieure pour clôturer le journal. Mais avant toute chose, nous apprenons une terrible nouvelle. Xéphir, développeur et community manager de Radio Brony, n'a pas répondu présent à son poste de responsable de communication. En effet, depuis une semaine, aucun mail n'a été traité. Nous avons réussi à le contacter, écoutons-le.
Je suis sincèrement désolé, je m'en occupe dans le week-end, promis. Demain matin, à la première heure, sans faute, pitié, arrêtez! Bon, d'accord, juste après l'émission, mais s'il vous plaît, je vous en supplie, lâchez-moi!
Aux dernières nouvelles, son avocat nous a fait parvenir que les chefs d'accusation à son encontre ont été retirés. En effet, celui-ci n'a pas déserté son poste, mais s'est simplement occupé de corriger les problèmes d'IP du serveur à la place. Afin de faire plaisir, je cite, « à ce connard de messire Google Premier, grand-duc et baron des internets ». Affaire à suivre donc. Un nouveau rapport est paru sur les divers secrets et autres interprétations que l'on peut faire des deux premiers épisodes de la série. Ce document, très sérieux, nous est proposé par Monochrome Script, expert analyste dans le domaine depuis de nombreux mois. Voici un reportage de Xéphir des... Encore lui ?
Monochrome Script est un nouveau venu sur la scène francophone, mais a rapidement su trouver sa place. Il produit de très brillantes analyses sur les divers aspects de la série My Little Pony Friendship is Magic. Travaillant à l'Institut National de Recherche d'Equestria, ce scientifique démontre chaque semaine, enfin, quand il le peut, de nouvelles faces cachées de notre monde en s'appuyant sur des raisonnements précis et argumentés. Tout passe sous sa plume, que ce soit des faits établis par les aventures des éléments d'harmonie ou bien les événements se produisant en tâche de fond par les fans, rien ne lui résiste. Tumblr, épisode, histoire d'Equestria, tout est desséqué dans un format court et très accrocheur. Monochrome Script a d'ailleurs sorti son dernier épisode mercredi, où il met en lumière tous les détails des deux premiers épisodes de la saison 4.
Et nous vous proposons ce soir d'écouter son analyse. On se retrouve juste après ça.
Les deux premiers épisodes d'ouverture de la saison 4 sont enfin sortis samedi dernier, et que de révélations, ma parole! Pour célébrer cela, voici donc la première vidéo d'une série d'analyses un peu différentes des habituelles, car elles traiteront non pas d'un sujet, mais de points marquants de chaque nouvel épisode. Mais trêve de bavardage, passons tout de suite au vif du sujet. Tout d'abord, commençons chronologiquement avec les leçons de vol de Twilight. Comme beaucoup l'avaient deviné, et comme Equestria Girls l'avait bien montré, notre nouvelle princesse a encore beaucoup de mal à contrôler ses ailes, et s'en sort plus ou moins bien. Son apprentissage sur ses ailes et son comportement dans cet épisode permet d'appuyer d'ailleurs plusieurs théories sur le fonctionnement des ailes, notamment qu'elles réagissent aux émotions et qu'elles peuvent être utilisées comme deux membres en plus, permettant d'attraper des objets, vu leur flexibilité. Tout cela appuie bien sûr que Twilight est toujours dans sa phase d'apprentissage à devenir une princesse, avec cependant de vrais moments d'affirmation comme la scène avec les gardes, montrant ainsi une évolution du développement de Twilight dans le même épisode. Cette ouverture de saison nous permet également d'en apprendre considérablement plus sur l'histoire et le ressenti des princesses, sauf de Cadence, dont d'ailleurs la vitre de couronnement ne figure même pas dans le hall de Canterlotte, alors que Rarity a clairement dit que toutes les princesses voyaient leur couronnement immortalisé ici. Mais bref. Celestia gagne sensiblement en développement en nous faisant part de ses sentiments au sujet de la célébration du solstice d'été qui célébrait jadis la défaite de Nightmare Moon, ce qui fait donc deux fêtes consacrées à Nightmare Moon avec la Nightmare Night. Du coup, je ne comprends pas pourquoi le peuple d'Equestria était censé avoir oublié Nightmare Moon alors qu'ils ont deux fêtes par an qui leur rappellent l'existence de Nightmare Moon. Bon, ok, Nightmare Night, je peux comprendre, c'est juste un festival cauchemardesque pour ne pas faire de pléonasme, mais la fête du solstice d'été est clairement définie par Celestia elle-même comme sa victoire sur Nightmare Moon, et donc la défaite de Nightmare Moon. Concernant Nightmare Moon, nous avons eu bien évidemment le droit à une superbe séquence flashback, comme je l'avais présumé grâce à la potion à montrer des scènes cool, dont je parlerai plus tard. Et donc au sein de ce flashback, nous retrouvons notre chère Twilight qui s'est retrouvée plongée le jour du combat entre les deux princesses. Un premier mot sur la qualité de cette partie ? Magnifique. Un deuxième mot ? Canterlotte 2 est terriblement moins bien que l'ancien Canterlotte. Comment ça vous êtes perdu ? Bon, je vais extrapoler mon propos. Canterlotte a été construit jadis par les licornes pour représenter l'unification des trois tribus et pour accueillir la famille royale à licornes. Comme Twilight nous le dit dans le jeu Twilight Sparkle Teacher for a Day. Sauf que, au moment de la défaite de Nightmare Moon, les princesses étaient dans un autre château que le Canterlotte que nous connaissons. Et donc, comme le début du règne des licornes marque le début de la création d'Equestria et la fin du règne de Discord, cela veut dire que ce château était Canterlotte, là où Celestia et Luna siégeaient à l'origine, et que le Canterlotte actuel est un autre château que Celestia a dû faire construire lors du début de son règne en solitaire pour tenter de se détacher de cet endroit d'où elle a banni sa sœur, ce qui rajoute une certaine profondeur à son immense sentiment de regret. Si vous voulez une autre preuve, regardez donc les trônes. L'ancien château en a deux, alors que l'actuel n'en a qu'un. D'ailleurs, il faudrait qu'il se décide à en rajouter enfin un pour Luna quand même, voire même un pour Twilight. Ah oui, les travaux d'intérieur, il fallait y penser, ma chère Celestia. Tu as peut-être pu éviter de construire un autre trône en envoyant Cadence régner sur pour l'Empire Cristallin, mais là ça devient urgent. En parlant d'urgence, n'oublions pas la principale menace de cet épisode, l'envahissement d'Equestria par les Verfrey Forest. Pour en passer tout de suite au fait, vous savez que tout ce remue-ménage est en fait le stade final des graines de chaos de Discord qu'il avait parsemé il y a 1000 ans pour piéger Celestia et Luna. D'ailleurs, j'ai cru jusqu'au bout que cela était un coup de la reine Chrysalis, vu le style et les couleurs très similaires au changelin des énormes ronces, mais passons. Notons quand même que Discord n'y est pas les deux mains mortes avec ses plantes qui, en plus d'être extrêmement solides même pour les terrestres, peuvent inhiber la magie des licornes et générer des nuages incontrôlables même pour les Pégases. Si vous vous êtes exclamé à l'écoute de ma phrase précédente, je vous en félicite, car en effet il y a quelques détails à préciser. Déjà concernant le pollen anti-magie des ronces, on peut noter qu'à certains moments, notre cher Meghan McCarthy a un peu oublié son existence. Car si ce pollen perturbe et empêche l'utilisation de la magie, pourquoi n'y en a-t-il aucun qui empêche Twilight d'utiliser sa magie? Non, c'était juste pour déranger Rarity et nous montrer que Sweetie Belle peut faire de la magie, ce phénomène? Car quand même, que ce soit à Ponyville lorsqu'elle se téléporte, dans l'Everfree Forest quand elle tire des lasers sur les facehuggers végétaux de Alien, ou à l'intérieur des ronces elle-même quand elle replace ses éléments d'harmonie, ce pollen ne réapparaît jamais. Et ne me dites pas que les alicornes en sont immunisés, car Discord a créé ses graines pour piéger Celestia et Luna de base. C'est bien beau de montrer une menace puissante, mais si c'est pour l'oublier en cours de route, ce n'est rien de plus que de l'exposition inutile. A ce titre, je pourrais faire exactement la même critique avec les plantes de l'Everfree Forest. Au début, lors de l'invasion de Sweet Apple Acres, on voit très bien que Applejack et sa famille ont vraiment du mal à arracher ces plantes, voire même n'y arrivent pas. Et pourtant, quelques minutes après, on voit Applejack trancher une énorme liane qui passait par la librairie de Twilight en un seul coup de fenêtre, et un peu plus tard dans l'Everfree Forest, les facehuggers végétaux se faire éclater par un seul laser de Twilight. En accumulation avec ces deux erreurs, les ronces de Discord soulèvent un troisième point à s'interroger. D'où viennent les nuages noirs chaotiques? Rainbow Dash a clairement dit avec certitude qu'ils étaient des nuages de l'Everfree Forest, impliquant donc qu'elle en avait déjà vu ou entendu parler avant. Cependant, comme ils sont entrés en action en même temps que les ronces du chaos, il est logique de penser que ces nuages ont donc dû être générés par les graines de Discord également, sauf que le constat de Rainbow Dash impose le fait que ces nuages existent depuis bien longtemps car ils font partie de l'Everfree Forest. Et en ajoutant à cela le fait que l'Everfree Forest paraissait calme dans le flashback du combat de Celestia et que l'arbre de l'harmonie empêchait la forêt de devenir incontrôlable, chaotique même, on peut appuyer la théorie que Discord a justement créé l'Everfree Forest à partir de ses graines du chaos. Cela expliquerait d'ailleurs pourquoi cette partie d'Equestria n'est régie par aucune règle et que le chaos y est maître. Littéralement. C'est un comble pour l'endroit où l'ancien Canterlot et l'arbre de l'harmonie se trouvent, mais c'est une douce revanche pour Discord. Au sujet de notre Draconicus préféré, nous avons la joie de le voir parodier le dénouement de Keep Calm and Flutteron de façon éclatante. Discord est toujours Discord, et il reste malgré tout toujours malicieux et peu enclin à être une personne de confiance, au point de montrer son désintérêt total envers ce qui s'est passé avec Fluttershy en se trompant de nom et de poney en la désignant, tout en plus en l'utilisant à son avantage. Mensonges et provocations sont toujours à son programme, même si son personnage est beaucoup plus nuancé qu'à ses débuts tout de même. Hormis le fait qu'il ait annoncé de but en blanc à l'audience en brisant le quatrième mur qu'il était à l'origine de tout ce chaos avec son faux popcorn, il est tout de même un peu plus coopératif avec le Main Six. En provoquant Twilight à sa sortie de l'Everfree Forest, il l'incite à y retourner alors qu'il sait très bien qu'elle risque de retrouver l'arbre de l'harmonie et de contrecarrer son ancien plan, ce qui montre qu'il est un peu plus poussé à aider à faire le bien et à réparer ses erreurs. À moins qu'il comptait juste sur le fait que Twilight devait y retourner pour rendre les éléments d'harmonie, pour qu'ils ne soient plus limités par eux, voire même qu'elle passe à la trappe tant qu'à faire. Mouais, en fait je penche plutôt pour la deuxième solution. Mais une chose est sûre, Discord prépare quelque chose. C'est un peu étrange qu'il obéisse à Fluttershy alors qu'il est de nouveau 100% libre, à moins que la Pégase a vraiment touché sa corde sensible en parlant de leur amitié. Ah, l'amitié, c'est bien beau en effet. Enfin, surtout quand on s'en souvient. Au sein de cet épisode, Applejack s'est représenté comme la porte-parole du vide de logique caractéristique du type
« J'ai oublié tout ce que j'ai appris les saisons précédentes »,
appelé plus communément le syndrome Sacha. Alors qu'en 3 saisons, le Main Six n'a cessé d'apprendre la valeur de leur amitié indissociable qui les lie et le besoin de s'entraider ensemble, les scénaristes ont profité de son honnêteté pour lui faire dire des choses complètement hors propos, comme le fait que selon elle, ce sont les éléments d'harmonie qui les unissent et que Twilight ne devrait pas les accompagner à cause de son importance. 3 saisons, cela fait 3 saisons que tu apprends chaque jour que votre amitié est ce qui vous unit. Comment pouvez-vous lui faire dire ça, messieurs les scénaristes? Comment pouvez-vous lui faire dire ça, Madame McCarthy? Et puis, concernant l'excuse de faire partir Twilight, c'est le même topo. C'est certes bien de provoquer une rupture dans les mécaniques habituelles du Main Six, mais sur ce coup-là, ce n'est vraiment pas du tout cohérent. Elles sont unies inextricablement par leur amitié, je ne conçois même pas qu'elles aient pu en venir à cette conclusion. Je sais qu'il vous fallait absolument une morale pour ces épisodes, mais de là à faire table rase des morales précédentes juste pour ramener une morale déjà connue, c'est un peu facile. Une morale tournant juste sur les responsabilités du titre de Twilight avec en écho un juste balancement avec son amitié avec ses amis était largement possible. Et c'est ce que vous avez presque fait. C'est cela qui m'énerve le plus. Pour continuer sur les facilités scénaristiques, évoquons donc la fameuse potion à flashback. L'objet fabuleux qui a notamment permis le cliffhanger de la fin de l'épisode 1 et les flashbacks certes très bien réalisés sur Nightmare Moon et Discord. Bon, il est clair que la critique de ce point se fait d'elle-même. Évidemment que son but était de faire avancer l'intrigue et de justifier les séquences flashback, mais justement pour ce qu'elle nous apporte, son utilisation reste respectable. Autre détail qui chiffonne, le fait qu'elle réagisse à la magie noire. Et surtout quand on prend en compte le fait que Zecora a clairement dit que la potion réagirait uniquement à la magie des alicornes. Alors pourquoi Twilight n'a-t-elle pas utilisé sa magie normalement et qu'elle a invoqué de la magie noire? Cette magie sera-t-elle propre aux alicornes? Mais du coup cela remettrait en cause la figure harmonieuse et bénéfique des alicornes, à moins que Zecora voulait dire une magie que seuls les alicornes peuvent faire. Mais alors l'autre problème qui se pose est pourquoi est-elle la magie principale du roi Sombra? Ce n'est pas une alicorne, c'est une simple licorne, enfin simple entre guillemets. Comment pouvait-il maîtriser cette magie? On pourrait dire donc qu'il possède une légitimité royale tout compte fait s'il est lié aux alicornes. Ou alors que cette magie particulière a été créée par Sombra, puis imitée par Celestia, et imitée par Twilight depuis Celestia. Ce qui se pose comme problème est donc le fait de savoir pourquoi Celestia a pris ce type de magie. À moins que ce soit Luna qui l'ait appris lorsqu'elle était dans sa période maléfique et que Celestia l'a imité elle tout compte fait et non Sombra. Tout cela amène un rapport certain entre Sombra et les alicornes, voire même juste entre Sombra et Luna. Le roi Sombra cache trop de mystères pour qu'il reste irrésolu. Cet éclat de magie noire est selon moi plus qu'un prémisse sur un rôle futur de Sombra à l'avenir, je ne parle pas de son retour, juste d'une importance dans les événements à venir. Ce pouvoir sombre des alicornes n'est pas le seul pouvoir qui nous a été dévoilé durant ces épisodes. Nous avons aussi eu la confirmation que toutes les alicornes possèdent une puissante magie d'attaque, ce qui est assez rare comme type de magie dans cette série pour le préciser. Nous avons respectivement comme preuve le laser jaune de Celestia dans A Canterlot Wedding, et maintenant le laser bleu de Nightmare Moon et le laser violet de Twilight. Encore un point renforçant le côté plus sérieux et scénique surtout qu'affirment ces épisodes d'ouverture. D'ailleurs, en parlant de pouvoir, on apprend quelque chose que tout le monde attendait depuis bien longtemps, la répartition officielle des éléments d'harmonie à l'époque de Celestia, avec respectivement Luna, qui possède les éléments de la loyauté, de l'honnêteté et du rire, et Celestia, qui possède les éléments de la tendresse, de la générosité et de la magie. Cette répartition est assez bien choisie en vue de ce que nous connaissons des personnalités de Celestia et Luna, mais pour l'instant je ne m'étendrai pas sur ce sujet. Cette ouverture de saison laisse solidement présager que les deux princesses vont être vraiment plus mises en avant. Je préfère donc attendre plus d'arguments canoniques avant de m'expliciter sur cette répartition des éléments. Pour continuer sur les éléments d'harmonie, je ne pouvais pas manquer de vous parler de l'arbre de l'harmonie et de l'abandon des éléments d'harmonie pour restaurer l'arbre. J'espère que Twilight pensait ce qu'elle disait dans Equestria Girls, car sans ce moyen de défense absolue, Equestria est devenue beaucoup plus vulnérable, et des personnages comme la reine Chris Alice pourrait totalement en profiter et revenir en force. On voit vraiment que ce choix est la pierre angulaire de l'avenir de Twilight dans son rôle de princesse, car c'est le premier sacrifice, la première grande décision qu'elle prend pour préserver son royaume, ou tout du moins Equestria. Je pense que comme moi, vous vous doutez que ce trésor de l'harmonie est une garantie de 6 épisodes exceptionnels, supérieurs de qualité aux autres épisodes, centrés sur un membre du Main 6 à chaque fois, ce qui leur permettra d'obtenir leurs clés respectives et de développer plus en profondeur leur histoire et ou leur personnage. Mais ce qui a attisé ma curiosité plus que d'habitude, ce n'est pas ce coffre, non, ce n'est pas la Twilly Can d'ailleurs, évidemment, il s'agit de l'arbre de l'harmonie en lui-même. L'arbre de l'harmonie donne tout son sens à l'origine des éléments, les définissant comme une puissance ancienne empruntée par les princesses plutôt qu'un deus ex machina générique pour vaincre les méchants très méchants. Il se constitue symboliquement comme la personnalisation de l'harmonie, donc l'harmonie à l'état brut, tout simplement, étant à l'origine des éléments, seule puissance capable de vaincre le chaos maléfique et le mal en quelqu'un. Et donc, dans un sens, il incarne la force supérieure au-dessus des alicornes, les princesses étant schématiquement ses représentantes. Le plus intéressant est d'inverser ce schéma pour Discord. En effet, vu qu'il est l'ennemi ultime des princesses alicornes, il doit théoriquement être un représentant du chaos, une incarnation du chaos. Si l'arbre de l'harmonie est l'harmonie, et les princesses ses incarnations, il est très possible qu'il existe une force étant le chaos à l'état brut, peut-être un arbre du chaos et dont Discord serait le représentant. Dans un sens, les graines du chaos de Discord évoquent un peu cette balance avec l'arbre de l'harmonie, graines et arbres, chaos et harmonie, appuyant ainsi le vrai thème de ce double épisode, la dualité. L'arbre de l'harmonie et les graines du chaos sont la quintessence de cette dualité, qui se retrouve d'ailleurs tout le long de l'épisode. Que ce soit le ciel moitié jour, moitié nuit, les décisions mitigées du Main Six et le dilemme de Twilight de se partager entre sa vie avec ses amis et son devoir royal. L'épisode confronte ces sujets de manière répétée et nous fait ressentir ainsi le trouble que ressent Twilight. En triomphant du chaos imposé par Discord avec ses amis, elle acquiert cette harmonie qui lui faisait défaut au début de l'épisode, et c'est cette étape franchie que Twilight peut maintenant s'avancer vers sa nouvelle quête qui la forgera encore plus dans son expérience et sur son rôle de princesse en compagnie de ses amis. Je suis Monochrome Script, le premier analyste brrrrni français, et je plébiscite activement ces deux premiers épisodes de la saison 4. Leurs éléments scénaristiques majeurs nous font complètement oublier les quelques incohérences qu'ils possèdent, et ils nous promettent un premier arc captivant dans les épisodes à venir. N'oubliez pas de regarder le prochain épisode ce samedi de 16h à 17h, et à la semaine prochaine pour la suite de cette série d'analyses. Pensez à prendre du popcorn la prochaine fois.
Musique maintenant avec un artiste qui a sorti jeudi sa compilation de Noël à l'occasion de ses fêtes de fin d'année. Malgré des difficultés à la fois techniques, connexion internet un peu moisie, et humaine, malheureusement il est malade, il réussit tout de même à nous proposer une heure de chant traditionnel pour passer de bonnes fêtes dans la joie et la bonne humeur. Mishka nous livre son travail tous les jeudis, et je vous recommande chaudement d'aller l'écouter en live, ça vaut le détour. Sans transition, emploi. Les studios de Radio Bruni recrutent. Ces offres sont là depuis un moment, mais deviennent de plus en plus critiques pour ce groupe amateur, mais passionné. Deux types de postes principaux sont à pourvoir. Vous serez chargé dans le premier d'écouter une interview réalisée en anglais et de la retranscrire sous forme écrite en français. Vous devez donc bien maîtriser les deux langues. Le second requiert beaucoup moins de connaissances techniques. Il vous faut simplement savoir vous servir d'un logiciel de montage audio comme Audacity par exemple. Il vous sera demandé d'écouter des anciennes émissions des radios libres et de couper tous les moments inappropriés ou inintéressants. L'équipe de Radio Bruni se dit, je cite, « Nous sommes désespérés par les situations, nous souhaitons vraiment sortir au plus vite ces pistes audio qui pourrissent dans un placard humide et mal rangé. » Pour postuler, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur le formulaire de contact du site radiobruni.fr/contact et de leur envoyer un petit mot.
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la page de référencement radiobruni.fr/recrutement. Offre gratuite et sans obligation d'achat limitée à une personne physique dans la limite des stocks disponibles. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Ce communiqué était sponsorisé par mangerbouger.fr.
L'équipe vous remercie d'avance. Chapitre économie à présent, avec une augmentation étrange de la vente de pop-corn dans les contrées d'Equestria. Les enquêteurs ont tout d'abord soupçonné Discord, mais celui-ci a démontré qu'il n'en était pas la cause. Il aurait déclaré « Non, c'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais au cinéma ». De nombreux clichés ont prouvé ces dires, malgré le fait qu'on le voit toujours avec un pot de pop-corn dans les mains. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il profite bien de la situation. En effet, il a ouvert récemment un petit commerce nommé « Au Popcorn Surprise ». Bien que son activité soit tout à fait légale, nous n'avons aucune information sur la provenance de ses produits. Nous vous recommandons plutôt de vous approvisionner à la ferme Sweet Apple Acres, où les semences ont été testées et approuvées sans risque pour la santé.
Ce communiqué était sponsorisé par mangerbouger.fr. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
Bref, ceci étant dit, cela ne nous explique pas la recrudescence de la consommation de ces délicieuses graines de maïs soufflées au goût sucré ou salé. Nous avons questionné un intervenant nommé Zephyr Destiny sur place afin d'en savoir plus.
Non mais encore lui, c'est pas possible!
Oh, vous savez, ces histoires sont sans importance. Ces crises sont passagères et ne vous concernent pas. Restez en dehors de ça, ça vaut mieux pour vous. En plus, la princesse Luna m'a dit lors d'une session de Call of Pony qu'elle était déjà sur le coup et qu'elle s'en occupait personnellement. D'ailleurs, vous saviez qu'elle était diablement douée aux jeux vidéo? L'autre jour, elle m'a littéralement défoncé à Ninja Gaiden Ponies, ça m'a dégoûté à vie du jeu.
Eh bien, merci Zephyr pour ces détails. Passionnant. Bref, ce journal touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce petit écart inhabituel dans nos programmes. Je rends donc l'antenne. À vous les studios.
Nous sommes Ponanimous. Nous sommes Bruni. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Nous ne tolérons pas. Craignez-nous.